I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Louis. C'est bien simple. Elle ne supporte rien chez elle. Le bruit de ses pas qui traînent le matin. La tasse vide qu'elle laisse avec sa marque de rouge à lèvres sur le bord de l'évier de la cuisine. Sa manière de répondre au téléphone, d'avoir besoin de chantonner quand elle est un peu stressée. Pour mon amie Marion, que je pratique depuis des années, rien, mais absolument rien, ne pourrait faire que Johanna n'ait grâce à ses yeux. Sauf que, contrairement à ce que laisse imaginer cette longue liste de doléances et de crispations quotidiennes, Marion n'a jamais été en couple avec Johanna. Le maximum d'intimité qu'elles ont partagé, ce sont des horaires de travail, un open space et quelques réunions dans la semaine. Pourtant, le nom de Johanna revient tout le temps dans nos discussions. Un prénom d'une jeune femme que je ne connais absolument pas, mais qui est devenu aussi évident pour moi que si mon amie me débriefait les frasques de son ex-mari ou de son nouveau petit ami toxique qu'elle est en train d'essayer de bazarder. Cette relation d'inimitié a pris tellement de place que moi-même j'en viens à lui demander à chaque fois que l'on trouve un peu de temps pour se retrouver « Comment ça va avec Johanna en ce moment ?» Lunaire. Enfin, pas si lunaire que ça. Les amitiés et les inimitiés ont une place centrale dans notre rapport au travail, notamment quand celui-ci se fait en équipe. Et lorsque l'on intègre une nouvelle équipe et que les choses ne se passent pas comme on l'a espéré, ça peut vite donner ça.
Déjà, j'arrivais même plus à les regarder. Je regarde beaucoup les gens dans les yeux. C'est hyper important pour moi. Je ne voulais même plus les regarder dans les yeux. Il y en a une, sa voix, je ne pouvais même plus l'entendre. C'est-à-dire que dès qu'elle parlait, j'avais un... tu sais, d'agacement physique. Et puis c'est surtout cette boule au bide avant de partir au bureau où, clairement... Je suis carrément un jour pas allée travailler tellement j'en pouvais plus, quoi. Ou genre, j'avais tellement mal au ventre que, je me disais, j'ai des problèmes d'estomac. En fait, pas du tout. C'était juste parce que j'étais stressée de les voir. Et que les jours où elles étaient en télétravail, je n'avais pas cet effet-là. Parce que mesdames étant très copines prenaient souvent leurs jours de télétravail en même temps. Donc, du coup, quand elles étaient en télétravail, je reprenais plaisir à venir au bureau.
Vous savez cette sensation quand quelqu'un commence à vous taper sur le système et que vous vous mettez à noter absolument tout. Leur manière de penser à voix haute, de mâcher trop fort, de respirer même. Justine, c'était deux collègues en particulier qu'elle ne pouvait plus voir en peinture. Alors comment faire pour être opérationnelle quand des relations deviennent détestables et nous parasitent ? Je suis Raphaël Elkrief, bienvenue dans Émotion au travail. Au travail, ne pas s'entendre avec d'autres relève de différents cas de figure. Ça peut être son ou sa chef qu'on n'apprécie pas, un de ses collègues qui nous horripile, ou encore quelqu'un qu'on manage, qui a le don de ne pas respecter les consignes qu'on lui a données. Il peut y avoir plein de choses qui font qu'on ne clique pas forcément avec quelqu'un. L'attitude d'un collègue dont les dents rayent le parquet. Celle de celui qui prend de nombreuses pauses alors que vous attendez un rendu de sa part. Ou encore quelqu'un dont l'odeur vous incommode. Justine, elle est attachée de presse dans une agence de communication. Elle vient d'arriver il y a quelques mois à peine dans une nouvelle boîte. Premier problème, elle remplace quelqu'un qui était adoré.
Mais je me sentais vraiment pas du tout la bienvenue, quoi. Vraiment, comme si j'ai, en fait, elle me faisait payer de prendre la place de leur copine. Alors que leur copine, elle avait choisi de partir, en fait, hein, en tour du monde. Hein. C'est pas moi qui l'ai chassée de sa place. Et si tu veux, j'avais vraiment ce sentiment de payer parce que leur copine s'en allait, quoi. Au début, quand il y a eu ces comportements, je me suis dit, bon, allez, tu te mets à leur place, tu peux aussi comprendre que ton amie, qui est vraiment une bonne amie, vient de quitter l'entreprise. C'est compliqué de faire de la place à quelqu'un d'autre. En plus, il y avait tout un remaniement de l'agence, enfin, parce que je suis arrivée à un moment où l'agence était en pleine restructuration. Donc aussi, il y avait tout ça qui aussi leur faisait peur, je pense, hein, très concrètement. Et je suis humaine, donc je peux me mettre à leur place et me dire, bon, c'est pas évident, je comprends. Mais en fait, plus le temps a passé, plus j'ai senti que c'était moi. C'était avec moi qu'il y avait un problème et que c'était pas du tout le contexte ou l'ambiance ou la raison pour laquelle j'étais arrivée qui faisait ça. C'est qu'elles avaient un problème avec moi, je pense.
Deuxième problème, effectivement, Justine n'a pas exactement les mêmes centres d'intérêt que ses collègues.
Là, si tu veux, j'ai carrément, pour être tout à fait transparente avec toi, j'ai carrément regardé un épisode de L'amour est dans le pré, alors que je n'aime pas du tout cette émission, pour pouvoir avoir un sujet de conversation avec l'une d'entre elles et essayer de créer du lien au début. Ça n'a pas du tout fonctionné, mais je me suis dit, en fait, essaye de t'intéresser à ce qui l'intéresse. Donc, j'ai compris en écoutant les conversations, ses centres d'intérêt, qu'en gros, elle aimait la bouffe et la télé-réalité. Donc, je me suis dit, bon, c'est quoi la moins pire des télé-réalités? C'est L'amour est dans le pré. Donc, je vais regarder ça. Et si tu veux, je l'ai regardé. Et le lundi ou le mardi, je sais plus, on était en train de déjeuner. Je dis, ah, bah, du coup, j'ai regardé l'épisode d'hier et tout. Ah ouais, cool, ok. Et voilà. Ça s'est arrêté là. Donc en fait, j'ai essayé de créer du lien avec elle, j'ai essayé de m'intéresser à elle, j'ai essayé d'avoir des échanges, de proposer des choses et tout, mais en fait, elles étaient pas du tout ouvertes. Quand je parlais un petit peu de mes week-ends et je disais, ah bah, je suis allée voir une expo super bien, je suis allée au ciné, ah ouais, moi j'aime pas le ciné, moi j'aime pas les expos, voilà. On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, on va dire, très clairement.
Bon, on l'entend déjà. Il y a eu d'autres incidents sur le volet strictement pro qui se sont succédés et qui ont fait que la relation a complètement dégénéré.
En plus, je suis quelqu'un d'assez jovial et d'assez joyeux. Enfin, globalement, j'aime bien mettre la bonne ambiance. J'aime bien quand les gens sourient. Je trouve ça toujours plus agréable. Et je me sentais et quand je faisais ça, j'avais l'impression limite d'en faire trop. Tu vois qu'elle se disait ah mais pourquoi elle est too much, pourquoi elle fait ça alors que c'est ma personnalité.
Un mois après son arrivée. Justine parle de cette tension qu'elle ressent avec un de ses supérieurs.
Elle m'avait dit que c'était deux personnes très froides, donc qu'elles étaient comme ça, en gros, et que si ça continuait et que ça persistait, il fallait que je lui en parle. Sauf que moi, je suis pas du genre à aller pleurer dans les chaumières, j'ai horreur de ça. Donc du coup, j'ai rien dit, et le truc, c'est que j'ai fait l'effet cocotte minute.
Généralement, quand on a un problème avec quelqu'un au travail, c'est avant tout qu'on ne fonctionne pas de la même manière, que les façons de faire divergent. Et là, en l'occurrence, il y avait un sujet de taille sur les compétences de chacune.
Si tu veux, je suis arrivée au mois de octobre, donc fin octobre, enfin mi-octobre. Le premier sujet a eu lieu quelque temps avant Noël, où il y avait eu un sujet sur le placement d'un article dans un média pour un client santé. Moi, je suis pas du tout spécialisée dans la santé, donc ma nouvelle N+1 qui venait d'arriver me dit, on va mettre telle personne sur le placement de cet article, puisque la santé, c'est son secteur de prédilection. Et je lui dis, moi, je veux bien lui donner un coup de main pour tout ce qui est phoning, c'est-à-dire appeler les gens pour essayer de placer cet article, mais je n'ai pas les contacts de base, donc je ne peux pas être efficace sur ce dossier-là. Et elle m'a tout de suite dit, non, t'inquiète pas, de toute façon, le but, c'est que ça aille vite, donc qu'on place avec quelqu'un qui connaît le secteur et qui connaît les journalistes du secteur. Et donc, elle demande à une des deux filles qui m'ont mis la misère de prendre le sujet en main. Et en gros, la nana commence un peu à s'agacer parce qu'elle avait beaucoup de sujets à la fin de l'année et qu'elle considérait qu'en gros, que j'avais moins de travail, donc que c'était à moi de le faire. Et je lui ai carrément fait un message privé pour lui dire « Si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'aider. » Et elle a commencé à me dire « Non, mais de toute façon, c'est pas, on va pas se partager le fait de placer un article dans un média. Ça demande, ce qui demande du temps, c'est de faire le listing. » Donc j'étais là « Bah en fait, si tu connais tes journalistes, t'es pas censé prendre du temps à faire le listing. Et puis ce qui prend du temps dans notre métier, c'est d'appeler les gens. C'est pas de faire des listes de médias, en fait. » Donc voilà. Et je lui ai carrément fait un message en privé en lui disant « Écoute, parce qu'on était dans une conversation de groupe avec notre N+1 et tous les autres gens, et où elle m'a quand même parlé comme un chien pourri, donc voilà, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et après, si tu veux, je lui ai fait un message privé en disant je ne voulais pas créer un sujet, si tu as besoin d'aide pour faire les relances téléphoniques, je me répète, je suis là. Et elle m'a répondu comme si j'étais une moins que rien, quoi, très clairement. Alors je pense qu'il y avait aussi un stress parce que beaucoup de choses à faire de son côté, et que je, encore une fois, je suis humaine, je me mets à sa place, je suis surchargée de travail, on essaie de me remettre du travail sur le dos. Je me dis pourquoi elle, qui a moins de travail, ne le fait pas. On est d'accord. Après, c'est une question aussi d'efficacité sur la connaissance des médias et des journalistes, puisque moi, tu me mets sur un truc hôtellerie, je connais tous les journalistes du secteur, je suis capable de placer un sujet en une heure. Enfin, globalement, c'est ma force et je le sais. Et je connais aussi mes faiblesses. Les journalistes de santé, je ne les connais pas.
Ce qui est intéressant, c'est que Justine reconnaît qu'elle et ses collègues ne fonctionnent pas de la même façon et qu'elles ont chacune leurs forces et leurs faiblesses. Rien de plus normal quand on travaille en équipe avec des gens venus d'horizons différents. Mais encore faut-il pouvoir s'en parler pour que chacun comprenne son propre mode de fonctionnement, celui des autres et la place de chacun dans l'organisation. Et ça peut être au sujet des compétences, mais aussi des différents types de personnalités. C'est pour ça que certaines entreprises font passer à leurs nouvelles recrues des tests de personnalité qui sont ensuite partagés avec les membres de l'équipe. L'idée, c'est que chacun puisse s'appréhender en amont, comprendre comment fonctionne l'autre, ses forces, ses faiblesses, afin de pouvoir les prendre en compte et les intégrer. Ça, c'est pour éviter que les tensions ne se créent. Mais une fois qu'elles sont déjà là, bien installées, comment fait-on pour les désamorcer ?
Tout le mois de janvier, février, ça a été un enfer, où là, je commençais à vraiment aller au travail en me disant « Mais qu'est-ce que je fais à aller dans ce bureau avec des gens qui, clairement, ne peuvent pas me blairer ?» Parce que clairement c'était, et puis même physiquement ça se sentait qu'elles étaient réfractaires à me parler, c'est-à-dire qu'elles ne m'adressaient pas la parole, aucun effort sur de l'échange quotidien humain que tu peux avoir dans une entreprise, jamais elles ne m'ont proposé d'aller déjeuner. Il y a eu plein de trucs, et il y a eu plein de bruits de couloir aussi que j'ai entendu, où il y avait des conversations qui tournaient avec la personne que je chapeautais en tant que junior. Donc moi, en tant que manager, j'avais une junior que je chapeautais. Donc elle discutait avec, donc ces deux filles discutaient avec la junior avec qui je travaillais et une autre junior. Où en gros, il y avait des petites conversations sur moi. Parfois, tu sais, sur l'ordinateur, je voyais des pop-up de la conversation qui arrivaient, où c'était des trucs qui me concernaient. Donc il y a eu plein de petites choses comme ça, des petits bruits de couloir disant qu'en gros, elle disait que je foutais rien, que j'avais pas de clients, qu'on me donnait pas de clients. Voilà, que des petites choses comme ça, et donc au quotidien, ça devenait mais invivable.
Jusqu'à un événement où Justine se dit que la situation ne peut plus durer et qu'il faut qu'elle prenne les choses en main.
C'est que y a eu, donc dans notre métier, on fait ce qu'on appelle des appels d'offres. On répond à des appels d'offres, donc on propose des stratégies de communication à des potentiels clients. Et il s'avère que les derniers appels d'offres étaient sur des sujets, pareil, santé ou des trucs de croquettes de chien. Donc si tu veux, bon voilà, moi c'est pas mes domaines de prédilection. Donc encore une fois, ma N+1 intelligemment essayait de faire en sorte que on ait des sujets qui nous intéressent. Donc elle place cette fameuse fille sur les sujets santé et l'autre sur le sujet des croquettes parce qu'elle a un chat, donc elle aime bien les animaux, etc., etc. Et je commence à sentir que ça pose problème qu'on ne me mette pas sur des appels d'offres pour des stratégies. Donc moi, je ne dis rien, je fais bah, profil bas, je fais mon travail, quoi. Et puis encore une fois, plus le temps passait, moi j'étais motivée, etc. Et je fais un rendez-vous avec ma N+1 et mon N+2. Et je leur explique que je ne comprends pas pourquoi je suis pas sur des appels d'offres et tout. Donc, ils m'expliquent ce que je viens de te dire de, voilà, on est sur des sujets qui sont plutôt les sujets de ces deux filles. Donc là, je me dis, OK, je comprends. Et mon N+2 me dit, si c'est un problème pour les filles, organise un déjeuner avec elles et explique-leur. Donc, j'organise un déjeuner le lundi avec elles, où je leur dis, en gros, que je suis aussi tributaire de l'organisation de notre N+1, que ce n'est pas moi qui choisis les appels d'offres sur lesquels je suis, ni elles d'ailleurs, et que, en fait, je leur dis, ce n'est pas de mon fait, et ça n'a rien à voir avec ni ma manière de travailler, ni ma présence dans l'agence. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème.
Proposer un déjeuner à quelqu'un avec qui les relations au travail sont tendues, ça peut fonctionner. En lui disant par exemple, « Écoute, je pense que là, notre relation de travail, là, c'est désiré. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que toi, tu penses qu'on pourrait faire pour mieux collaborer ?» Ça peut permettre de déjouer l'animosité en jouant la carte de la franchise et de la collaboration plutôt que celle de l'affrontement. Mais pour Justine, même le coup du déjeuner n'a pas fait l'affaire. Au contraire, la situation a continué à se dégrader.
Et toute la semaine, je les sens à faire des petites conversations. En fait, si tu veux, on était dans un open space où les bureaux étaient face à face et je les voyais envoyer des messages sur cette fameuse conversation à quatre, à rigoler. Donc forcément, j'ai envie de regarder, donc je regarde et je vois encore mon prénom ressortir, etc., etc. Et donc, ces deux filles étaient en télétravail ce jour-là, donc elles se connectent pour faire le brainstorming et nous, on était tous dans une salle. Et j'arrive et en fait, elles ne me voient pas à l'écran. Et elle dit, bon, on essaye de faire ça parce qu'on a tous du boulot. Et là, elle commence à dire, ouais, enfin, il y en a une, elle a pas vraiment de boulot. Et là, tout le monde se marre. Donc, ma junior se marre avec qui je bosse. Tous les autres juniors se marrent. Donc, tout le monde était au courant, en fait, hein, très clairement de ce qui se passait et de ce qu'elle pensait de moi. Sauf moi, parce qu'elle n'avait jamais eu le cran de me le dire en face. Donc, au début, je fais bonne figure, je reste dans la salle. Et puis, la moutarde me monte au nez, donc je me dis que je vais éclater en sanglots, donc j'aime pas m'afficher et pleurer devant les gens, donc je sors de la salle pour pouvoir pleurer et décharger tranquille, quoi. Et je sors de la salle et ensuite tout le monde sort de la salle. Et là, il y a la junior avec qui je travaillais, qui du coup avait organisé ce brainstorming, qui commence sans déconner dans le hall, dans l'open space, à me hurler dessus. En me disant, tu quittes le brainstorming, ça se fait pas, c'est pas de ma faute si Julia, elle te fait des réflexions déplacées, etc., etc. Et elle me hurle dessus, et là, elle commence à me reprocher un million de trucs, en me disant, mais en ce moment, ça va pas, le travail, ça va pas, j'ai l'impression de tout faire, alors qu'en plus, bon, elle avait dit qu'elle voulait monter en compétences, donc moi, je lui donnais de plus en plus de missions, ce qui est logique, et puis encore une fois, elle me dit qu'elle fait tout à ma place, sauf qu'elle ne sait pas ce que moi je fais derrière, puisqu'elle n'est pas en copie de la moitié de mes emails avec les clients, avec les N+1, etc., etc. Donc il y a eu ça, donc là, après ça, je me dis, bon, ok, c'est très moyen. Là, j'envoie un message à la fille qui a eu la réflexion très déplacée, en lui disant « Sympa ta petite réflexion », et là, elle me dit quoi ? Le grand truc des gens qui harcèlent, « Oh, ça va, c'était une blague !» Sauf qu'en fait, depuis 4 mois, tu me fais comprendre qu'on n'est pas copines. Et que tu ne m'aimes pas, clairement, parce que c'était clairement un jugement comme ça, tu ne m'aimes pas sans même me connaître. Et là, tu te permets de me faire des blagues. Mais en fait, moi, je fais pas des blagues aux gens qui sont pas mes potes. Hein. Donc, ne te permets pas de me faire des blagues. Et là, ça a été l'événement de trop, parce que ça peut paraître tellement rien dans un quotidien, une réflexion comme ça, etc. Donc, ça m'a complètement fait dégoupiller. Donc là, j'ai tout de suite demandé un rendez-vous à la RH et à Mind+1. Et le lendemain, je leur ai dit, moi, je reste pas dans ces circonstances. Je ne reste pas dans une entreprise où le personnel ne me respecte pas.
Bonjour, c'est Zoé Delouis. Dans Émotions au travail, on décrypte toutes les émotions qui vous traversent et vous bousculent parfois dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un podcast super inspirant, Bienvenue dans l'ascenseur, animé par Anne-Cécile Sarfati. Dans chaque épisode, elle reçoit des personnes aux profils variés, médecins, responsables commerciaux, chefs d'entreprise, qui ont su gravir l'ascenseur social. Partie de rien, ils et elles partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute.
Justine a fini par partir, et a renoncé à un poste qui l'intéressait énormément, parce que les relations humaines apaisées y étaient impossibles. C'est justement ce qu'on voudrait que vous puissiez éviter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que la relation ne dégénère trop ? Justine a essayé de régler la situation par elle-même, en déjeunant avec ses collègues. Parfois, il faut surtout demander à quelqu'un d'intervenir. Il faut se souvenir qu'il y a des gens dont c'est le métier, que le mot « ressources humaines » n'est pas un gros mot, un métier un peu abscon de gens chargés de valider vos congés payés. C'est aussi une gestion des individus qui partagent un même cadre de travail. Et que le boulot d'un manager, c'est aussi de gérer les tensions entre ses équipes. C'est ce qu'a choisi de faire Marine quand elle s'est rendue compte que ça n'allait pas le faire du tout avec une des nouvelles recrues de son équipe.
Donc, je travaille en finance actuellement dans un grand groupe et je ne suis pas manager de l'équipe. Je fais partie de l'équipe. On est 3 contrôleurs de gestion dans l'équipe et il y a un directeur financier qui s'occupe des 3. Et cette personne est arrivée et c'est vrai que n'étant pas sa manager mais étant la personne la plus ancienne de l'équipe, on m'a demandé de le former et en tout cas de lui demander plusieurs choses pour pouvoir l'intégrer plus rapidement et qu'il prenne vraiment le pli. Donc on m'avait demandé une mission un peu basique qui était de rassembler et je vais donner un peu de détails, mais de rassembler les données sur plusieurs choses qui s'étaient passées l'année d'avant pour avoir vraiment une vue globale de ces chiffres-là. Et je me dis, bon, c'est assez simple à faire et je vais lui expliquer comment faire, comment avoir une information fiable et exhaustive. Et il va le traiter. Donc, je lui explique comment faire, je lui explique quel support utiliser, je lui explique bien les deadlines, sachant que c'était assez pressé. C'était pour le soir même. Donc, je lui explique tout ça. Il a l'air de comprendre puisqu'il me dit, c'est bon, j'ai compris, ne passe pas plus de temps. Donc, je me retrouve face à quelqu'un qui vraisemblablement est assez sachant sur la mission, sachant qu'il est en plus vieux que moi, donc je me dis bon, il a compris. Et c'est parti. Et donc je pars en réunion et quand je reviens, en fait il était parti et il m'avait envoyé un mail en me donnant tout le détail de ce qu'il avait fait. Et en fait, quand j'ouvre, je me rends compte, donc il était 18h, un vendredi en plus, et je me rends compte qu'en fait il a pas du tout compris, il est passé à côté et il m'a pas envoyé ce qu'il fallait. Sachant que c'était pour le soir même. Donc en fait, moi, le vendredi soir, j'ai repris tout ce qu'il avait envoyé. J'ai revérifié, effectivement, ça n'allait pas. Et donc, j'ai refait, en fait, quasi intégralement tout ce que je lui avais demandé. Et j'ai terminé, je pense, à 23h ce soir-là pour pouvoir envoyer au directeur ce que lui avait demandé et qu'il puisse s'en servir pour le lundi matin pour la présentation qui était assez importante et le support dont il avait besoin. Et en fait, le lundi, quand je le croise, je lui dis « Ah bah tiens, j'aimerais bien qu'on débriefe justement de ce que je t'ai demandé ». Et qu'on voit un peu bah, pourquoi justement il a fallu que je refasse, pourquoi j'y ai passé du temps et à quel moment en fait tu n'as pas compris ce que je t'ai demandé. Et là il me dit oui parlons-en et il me dit prenons une salle à part. Donc je me dis bon, étrange, enfin c'est un moment où concrètement il n'y avait pas besoin de s'isoler pour pouvoir en débriefer. Et donc je lui dis bah tiens, isolons-nous, ok, si t'as besoin d'en parler. Et là je me retrouve avec quelqu'un qui déjà ne veut pas s'asseoir autour de la table, qui reste debout, donc dans une position un petit peu dominante. Moi je m'assois pour essayer d'établir le dialogue et en fait il commence directement à parler et à me dire qu'il n'appréciait pas qu'en fait je m'approprie son travail, alors que bon bah en soi, étant là déjà depuis 4 ans, j'avais pas forcément besoin de m'approprier le travail de quelqu'un d'autre, et qui plus est en fait un travail que j'avais dû refaire intégralement. Et en fait, je m'attendais plus à quelqu'un qui était sur de l'humilité et qui demandait des réponses et qui demandait à comprendre pourquoi il n'avait pas forcément fait ce que je lui avais demandé. Mais en fait, par rapport à quelqu'un qui m'incriminait directement sur mes valeurs du travail. Et cet épisode, en fait, dès le départ où je me suis sentie agressée, en fait, c'est quelque chose que j'ai remonté immédiatement en disant « Tu m'as demandé, en fait, de lui transférer une tâche. Voilà comment ça s'est passé. » Donc, j'étais très factuelle sur la façon dont lui a fait les choses. C'est où j'ai dû refaire, en fait, l'exercice. Et ensuite, sur cette espèce de débrief qu'il a eu après, de me dire que j'ai ressenti assez violemment aussi, j'ai été assez transparente. Et la conséquence, ça a été assez direct de dire « Ok, tu le formeras sur 2-3 points techniques, mais à partir de maintenant, ça sera des points one-to-one avec le N+1. Ça sera plus avec moi et je ne serai pas responsable de son management, je ne serai pas responsable de sa formation. S'il a des points en one-to-one à faire, ça sera avec le manager et ça sera lui qui sera responsable de sa formation, de son intégration, de sa relation avec les autres directeurs. »
En parlant à sa hiérarchie, Marine a limité la casse. Elle l'a cantonnée pour que ça ne devienne pas insupportable, ni que ça nuise trop à son propre travail. Rétrospectivement, Justine se dit qu'elle aurait dû faire appel au RH dans sa boîte.
Je n'aime pas faire la caliméro, j'aime pas aller pleurer dans les chaumières. En fait, ça, dans le milieu professionnel, ce genre de réflexion que j'ai eue n'aurait pas dû avoir lieu. J'aurais dû directement me dire « je vais aller en parler avec la RH, en fait, c'est son métier de m'accompagner sur ce type de sujet. » Et je t'avoue que Je pense qu'il y a un truc un peu aussi de honte, de gêne, de aussi ça. Bon, je pense que ça remonte à quand j'étais petite à l'école, je me faisais un peu harceler, donc je pense que j'étais un peu rejetée, donc il y a ce truc d'avoir besoin de me faire accepter. Et en fait, si on sait que tu vas avoir la RH, forcément, ça veut dire que tu vas pas être acceptée au final parce que tu seras la petite enfant qui a besoin d'avoir la directrice de l'école qui l'aide. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, en y réfléchissant, j'ai vraiment fait le lien avec ça en me disant. Il y a un truc, c'est fou, qui reste de l'enfance où t'as besoin de te faire aimer par des gens dont on a strictement mais rien à faire parce que j'ai mes amis, j'ai mon mec, j'ai ma vie, je suis très heureuse. Mais ce truc de se faire accepter et dans cette espèce de cadre un peu pro qui me rappelait un peu l'école, tu vois, j'avais vraiment l'impression d'arriver à l'école et de me dire « Ah merde, je vais encore me faire emmerder aujourd'hui, quoi », tu vois. Et je pense qu'il y a un truc de honte un peu aussi, de se dire que ça m'arrive encore alors que j'ai 32 ans.
Mais si Justine doit faire un vrai effort pour prendre un pas de recul par rapport à l'importance de ses relations de travail, c'est aussi parce que la sociabilité au travail prend de plus en plus de place dans nos vies. En devenant cet endroit où l'on passe à minima 35 heures par semaine, le travail est un puissant incubateur de relations humaines. À coups de pause café, de déjeuner hors du bureau devenus de véritables bulles de respiration, et de soirées d'équipe où l'on est heureux de se retrouver, l'amitié y a pris une place inédite. D'ailleurs, dans sa boîte précédente, Justine avait rencontré une collègue qui est devenue de ses meilleures amies et avec qui elle va jusqu'à partir en vacances.
On voit donc que le travail est un incubateur hein, de permettant, je dirais, à des êtres humains de se rencontrer, de se croiser, de s'aimer. Donc, on voit que le travail permet donc des connexions et que ces connexions sont très riches. Et c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que de plus en plus, depuis l'exode rural qui a vu au début des années 60 les familles quitter les régions rurales pour se diriger vers les villes, on voit que les personnes vivent avec des familles plus restreintes, dans des appartements plus exigus, donc souvent éloignés. Y compris donc du centre de travail, du lieu de travail. Pourquoi ? Parce que tout simplement les loyers sont, et l'accès à la propriété, en particulier en région parisienne, mais pas que, c'est aussi la même chose à Lyon, Toulouse, etc., est très onéreux, très cher. Donc les gens s'éloignent de plus en plus. Donc, si vous voulez, quand vous êtes à une heure et demie de votre lieu de travail et que vous revenez le soir, vous êtes fatigué, le week-end, vous êtes fatigué. Donc, en fait, vous avez une telle toute puissance du travail que ça évacue, en fait, les autres possibilités. En fait, si vous voulez, la toute puissance du travail grignote les autres phases de vie, en fait, culturelles, sociales, etc. Ce qui fait qu'il est normal que les êtres humains, à un moment donné, s'en remettent aux relations qu'ils ont au niveau professionnel pour pouvoir être dans une possibilité de rencontrer des gens. Il y a, en fait, si vous voulez, le travail, la sphère professionnelle aspire, en fait, la vie de plus en plus des individus.
Jean-Claude Delgène est un expert du monde du travail. Il a fondé en 1989 le cabinet Technologia, qui travaille depuis plus de 30 ans sur la prévention des risques et de l'amélioration des conditions de travail. Selon lui, les relations avec les collègues comptent pour beaucoup dans la satisfaction que les personnes retirent de leur travail.
Nous, ce que l'on constate, si vous voulez, on l'a vu durant le confinement, on avait fait une grosse étude avec le journal Le Challenge, le magazine Challenge, et puis France Info et France 2. On avait interrogé 2600 personnes. Et en fait, on s'était aperçu au bout d'un mois. Enfin, on avait fait ça fin avril. Le confinement avait commencé, comme vous le savez peut-être, le 17 mars. Et on s'était aperçu qu'après quelques jours de repos, les gens aspiraient vraiment, pour beaucoup d'entre eux, à retrouver les collègues. Pourquoi ? Parce que en fait, l'homme est un animal social avant tout. Et donc, le fait d'être avec les autres, comme disait Aristote, ça nous nourrit. C'est le travail, c'est pas simplement, si vous voulez. Gagner sa vie, même si c'est important, hein, la rémunération, la reconnaissance, etc., que ça peut procurer. Mais c'est une autre dimension hein, pour ceux qui l'ont choisi.
Si la mayonnaise prend entre les collaborateurs, ça peut avoir plein d'effets positifs. et vraiment se faire ressentir dans l'organisation.
C'est une étude qui s'appelle « Le secret des collectifs heureux ». Je ne pense pas que le manager soit dans une recherche de faire en sorte que les gens soient heureux au travail. Le bonheur, c'est autre chose. Par contre, on peut réunir les conditions pour que les collectifs soient le plus épanouis possible, le plus heureux possible. Et on montre que lorsque le collectif est heureux, en fonction des différentes catégories, lorsque la peur n'est pas présente, lorsque la liberté d'expression se mène, lorsque la tolérance est là, lorsque la bienveillance est là, eh bien, on a des collectifs qui sont beaucoup moins atteints par l'absentéisme, beaucoup plus productifs et avec beaucoup moins de problèmes à gérer, en fait.
Si pendant des décennies, les managers ont lutté contre toute forme de distraction au travail, aujourd'hui, créer du lien entre les salariés, les faire sortir et passer du temps ensemble est un moyen de les faire adhérer à la culture d'entreprise.
Les problèmes viennent souvent, un peu comme dans les maisons de retraite, quand vous avez des personnes qui sont laissées un peu dans l'isolement, très vite, il y a une agressivité latente qui naît, parce que justement, les personnes n'ont pas le niveau d'affection suffisant, parce qu'elles sont isolées. Et lorsque, en fait, souvent, il y a, dans les maisons de retraite, on a souvent constaté ça, entre les personnes qui y résident, il y a souvent des petites guéguerres, des tensions pour un oui ou un non, en fait, vous voyez, des problématiques un peu stériles, mais parce que les gens s'ennuient, ils ne sont pas sous-tendus par un projet commun. Or, au niveau du travail, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un collectif de travail, il doit se projeter en avant tous ensemble pour pouvoir tenir, je dirais, une réalisation dans le futur. Et donc, normalement, quand on se projette tous ensemble, ça réunit les gens. Et ça les fusionne dans un effort collectif. Plus ou moins réussi, mais c'est comme ça le projet, vous voyez. Donc, les émotions, elles n'en restent pas moins présentes. On peut avoir plus ou moins d'affinité avec quelques-uns et plutôt des affinités avec d'autres. Mais le fait que de réaliser en commun quelque chose, ça réunit, ça rassemble plutôt les gens.
Certaines entreprises de la tech française poussent cette idée encore plus loin, en encourageant leurs collaborateurs à faire leurs vacances ensemble. Elles vont jusqu'à leur proposer des vacances à bas prix. Alors certes, des séjours à la montagne pour une bouchée de pain, c'est super, c'est dur de dire non même. Mais est-ce que vous auriez vraiment envie de partir en vacances avec vos collègues ? Si les entreprises capitalisent sur les liens sociaux entre les collaborateurs pour créer de l'engagement, cela peut parfois verser dans une ambiance cour de récré, avec ses cliques, ses bandes, celles qui excluent les autres. Or, quand les relations s'enveniment, ça peut avoir des conséquences vraiment délétères sur l'organisation, mais aussi sur les individus.
C'est très compliqué d'être dans une animosité totale et récurrente pour dans un lieu qui est toujours le même et d'être ainsi dans une érosion de la relation qui dure dans le temps. Cette putréfaction de la relation qui en résulte peut être même très douloureuse pour les individus.
Dans certaines startups, inspirées par ce qui se fait du côté des géants du net, les managers créent des environnements amicaux pour créer de la collaboration et de la communication entre les salariés. Mais dans le même temps, ils posent des limites très claires sur l'intensité des relations qui peuvent s'y créer. En changeant par exemple la composition des équipes pour empêcher que les relations entre collègues prennent le pas sur le travail. Vous savez, un peu comme quand un directeur d'école éclate des classes pour recréer des dynamiques plus propices à l'apprentissage. Mais bon, comme quand on était enfant, on n'a pas forcément envie que la direction régisse toutes nos interactions sociales. Si dans un premier temps, on veut essayer de régler la situation soi-même, il faut essayer de contrer au maximum l'image négative que l'on peut avoir de l'autre.
Lorsqu'on ne voit l'autre que sous un mauvais jour, on n'est pas loin de l'agression. Et moi, je dis souvent, pour essayer d'éviter d'être dans une situation de tension perpétuelle, il faut essayer de trouver à l'autre un certain nombre de qualités. Voilà. Donc, l'idée, c'est de voir en l'autre, d'essayer de rétablir un filtre volontaire, d'aller chercher chez l'autre un certain nombre de qualités pour rétablir une relation un peu plus harmonieuse. C'est pas simple à faire, mais ça peut fonctionner.
Et puis se rappeler que le travail, on a le droit d'y jouer un rôle 9 heures par jour avant de faire tomber le costume en rentrant chez soi. Et que les inimitiés, quand elles ne confinent pas au harcèlement, font partie des relations humaines.
sans que ce soit un drame.
Il y a un truc, c'est fou, qui reste de l'enfance où t'as besoin de te faire aimer par des gens dont on a strictement mais rien à faire, parce que j'ai mes amis, j'ai mon mec, j'ai ma vie, je suis très heureuse.
Je suis Raphaël Alcrieff et vous venez d'écouter Émotions au travail. J'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage, la réalisation et le mix ont été faits par le studio La Fugitive. Louise Emerlet est à la production. À bientôt.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.